À l'oreille du monde, géopolitique et actualité internationale. Un samedi par mois à 17h30 sur Radio Campus Paris.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Léo Elbé et je suis ravie de vous présenter cette nouvelle émission sur Radio Campus Paris. À l'oreille du monde, une émission de décryptage d'actualité internationale de géopolitique. Tout ça avec une seule règle, ne pas traiter de sujets omniprésents dans les médias. Alors voici le premier numéro.
À l'oreille du monde, sur Radio Campus Paris.
Et aujourd'hui, on commence avec un anniversaire. Je ne vous dis pas tout de suite de qui c'est l'anniversaire, je vous laisse essayer de deviner le pays. Qui suis-je ? Je vous donne un indice géopolitique. Sur mon territoire, l'ONU exerce une de ses plus longues missions de maintien de la paix. Les casques bleus y sont présents depuis 1964. Vous comprenez donc que c'est assez chaud là-bas. Encore plus intriguant, ma capitale est aujourd'hui la seule au monde à être coupée en deux, avec une nationalité de chaque côté, comme Berlin pendant la guerre froide. Et puis maintenant, un indice de localisation. La déesse de l'amour, Aphrodite, est née sur mes rivages. Je pense que vous voyez au moins de quelle région il s'agit. Bon, je vous le dis, pour la première émission de À l'oreille du monde, on parle de Chypre, l'île de la division, et c'est notamment un anniversaire. Les noces d'or, si on parle d'un mariage, c'est-à-dire les 50 ans. Mais c'est plutôt tout le contraire d'une union, vous allez le voir. Tout ce que je viens de dire juste avant pour la devinette, c'est vrai et on va se pencher dessus dans les 30 prochaines minutes. Et je ne suis pas seul, tout à l'heure vous entendrez le témoignage d'un chypriote grec. Merci d'être là, il est 17h33 sur Radio Campus Paris, une heure de plus à Chypre, et c'est parti. Je vous propose de commencer par la carte d'identité de Chypre, carte d'identité aussi bien géographique que géopolitique. C'est une chronique essentielle, vous la retrouverez à chaque émission. Alors au niveau géographique, l'île se trouve dans le bassin méditerranéen oriental, juste sous la Turquie. Chypre est vraiment dans un carrefour entre plusieurs mondes, géographiquement et géopolitiquement parlant encore une fois. L'île se situe en effet à 1000 km de la Grèce continentale, donc de l'Europe. Mais Chypre est aussi à seulement 75 km de l'Orient, à 75 km de la Turquie. Parmi ces autres pays voisins se trouvent la Syrie, le Liban, Israël et la Palestine à l'est, puis l'Égypte au sud. Chypre est à peine plus grande que la Corse. C'est la troisième plus grande île de la Méditerranée, après la Sicile et la Sardaigne. En effet, l'île, je dis bien l'île, s'étend sur une superficie de 9250 km². Cette superficie correspond donc officiellement à la superficie de la République de Chypre, le seul pays sur l'île reconnu par la communauté internationale. La République de Chypre est aussi membre de l'Union européenne et elle fait partie de la zone euro. Là où ça se complique, c'est que le droit européen ne s'applique que dans la partie sud de l'île et non dans la partie nord. En effet, au nord, on trouve une autre république autoproclamée, la République turque de Chypre du Nord, indépendante de la Turquie, mais elle n'est reconnue que par Ankara, que par la Turquie. On verra comment l'île en est arrivée là tout à l'heure. Ce que je peux vous dire, c'est que ces deux pays ont longtemps été en conflit et le sont toujours d'une certaine manière. C'est pour ça que les deux territoires sont séparés par une zone tampon appelée ligne verte. Elle s'étend sur 180 km et sa largeur va de seulement quelques mètres dans la capitale par exemple, jusqu'à 7 km. Cette ligne verte, ou zone morte, est sous le contrôle des casques bleus de l'ONU depuis 1964, ce qui en fait, comme je le disais tout à l'heure, l'une des plus anciennes opérations de maintien de la paix de l'ONU. Ce qui est aussi étonnant, c'est que sur l'île se trouvent deux grandes bases militaires britanniques, deux zones de souveraineté britannique. On comprendra pourquoi juste après. Chypre compte 1 300 000 habitants répartis entre le nord et le sud. Au sud, 95% des habitants sont des chypriotes grecs, chrétiens, orthodoxes. Et au nord, 98% des habitants sont d'origine turque et de confession musulmane. Sur l'île, on trouve deux langues majoritaires. Lesquelles ? Vous l'aurez deviné, c'est le grec et le turc. Mais ces deux langues ne sont pas exactement les mêmes que le grec et le turc continental. Elles contiennent des archaïsmes lexicaux, ce qui en fait presque des dialectes. Parlons maintenant de la capitale. Il n'y a qu'une capitale pour Chypre, c'est Nicosie. Elle est donc coupée en deux par la ligne verte, c'est la capitale des deux républiques. Et à ce jour, c'est la seule capitale au monde à être divisée par une frontière depuis la chute du mur de Berlin. Nous en parlerons un peu plus avec mon invité tout à l'heure. Finissons par un peu d'économie. La République de Chypre, parfaitement intégrée à l'UE et dans la zone euro, utilise donc l'euro comme monnaie. Son économie est largement liée au tourisme, Cependant, la République turque de Chypre du Nord, reconnue que par la Turquie, utilise sa monnaie, c'est-à-dire la livre turque. La crise économique et monétaire qui touche la Turquie depuis 2018 a des impacts très concrets sur la partie nord de l'île, avec notamment un taux d'inflation qui a dépassé 46% en 2021. Je vais finir chaque carte d'identité par un regard sur la liberté de la presse dans le pays, une notion qui nous est chère à Radio Campus Paris. Cela en me basant sur le très important travail de RSF, Reporters sans frontières. Vous pouvez retrouver sur leur site la situation de la presse dans chaque pays. Sur le site de RSF, justement, on trouve deux pages à propos de l'île, l'une sur la République de Chypre et l'autre sur la partie turque. Je les ai comparées et en fait, on remarque qu'il n'y a pas de grande différence entre l'état de la liberté de la presse au sud et au nord. Dans les deux parties de l'île, les lois protègent la liberté de la presse. Elle est même garantie dans la constitution de la République de Chypre. Mais au nord comme au sud, des variables gouvernementales, politiques ou économiques entrent en jeu et elles limitent la liberté de la presse. Par exemple, au sud, deux des quatre grands journaux sont affiliés à des partis politiques. Au nord, la plupart des propriétaires de médias sont des hommes d'affaires qui présentent des intérêts financiers. Cela menace l'indépendance des médias et oblige les journalistes à s'auto-censurer. Voilà pour la carte d'identité de l'île. Passons maintenant à l'histoire de Chypre.
À l'oreille du monde, sur Radio Campus Paris.
Les quelques fois où les médias parlent de Chypre, c'est sous la qualification de l'île de la division. 50 ans de partition, deux communautés irréconciliables. On va donc essayer de comprendre comment Chypre en est arrivé là en se penchant sur l'histoire de l'île. Alors, Chypre a toujours été très convoité par les puissances alentours du fait de sa position de carrefour entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe. L'île est aussi connue grâce à sa déesse Aphrodite, née dans les eaux chypriotes. Donc Chypre a toujours eu une grande importance stratégique, d'où les dominations successives. Depuis des milliers d'années, l'île est occupée par des majorités d'habitants hellénophones. Puis, en 395 après Jésus-Christ, au moment de la division de l'Empire romain, Chypre devient byzantine. Elle sera ensuite sous l'occupation des Francs avant de subir la domination vénitienne. Et en 1571, un changement majeur a lieu. L'Empire ottoman reprend l'île aux Vénitiens. Une population musulmane s'installe à Chypre et une partie des locaux se convertit. Plus tard, en 1878, l'Empire britannique prend le contrôle de l'île avant d'en faire une colonie britannique en 1914. À partir de là, un nationalisme grec se développe et 40 ans plus tard, les chypriotes grecs tentent de chasser les Britanniques et ils demandent l'énosis, c'est-à-dire l'union de l'île avec la Grèce. Une guérilla et une lutte armée s'organisent et des actions terroristes voient le jour. En réaction, un nationalisme turc prend son essor, ce qui débouche sur une guerre civile. Malgré la violence de cette rébellion, elle est fructueuse et le 16 août 1960, Chypre prend son indépendance du Royaume-Uni. Un compromis est instauré entre les Grecs et les Turcs de Chypre. Le président de l'île est grec, c'est l'archevêque Makarios III, et le vice-président est turc, mais je ne vais pas m'aventurer à prononcer son nom. En revanche, c'est une république dont personne ne veut. Les chypriotes grecs veulent l'énosis, le rattachement de l'île à la Grèce, et les chypriotes turcs veulent le taksim, la partition de l'île, la division de l'île. En 1963, les tensions éclatent une nouvelle fois entre les deux communautés et aboutissent à un Noël sanglant, une série de massacres. Dès l'année suivante, une nouvelle guerre civile s'installe sur Chypre. Et dans cette guerre-là, les armées turques et grecques continentales apportent un soutien militaire à chacun de leurs camps. On arrive à une date clé dans l'histoire de Chypre, le 15 juillet 1974. La situation se complique encore sous les colonels en Grèce. La junte militaire au pouvoir à Athènes depuis 1967 soutient, voire provoque le renversement de la République de Chypre. Parce que l'archevêque grec Makarios est toujours au pouvoir, mais il n'est plus partisan de l'énosis. Les colonels grecs tentent un coup d'État en vain. Quelques jours plus tard, l'armée turque lance l'opération Attila en réaction à cette tentative de coup d'État. Les Turcs envahissent donc le nord du territoire, un tiers de l'île, ce qui correspond encore aujourd'hui à la République turque de Chypre du Nord, autoproclamée en 1983. Cette opération engendre un important déplacement de population. Entre 1974 et 1975, près de 200 000 chypriotes grecs fuient le nord et 40 000 chypriotes turcs rejoignent le nord. L'année 2004 marque un espoir de réunification de l'île. L'île de Chypre devient membre de l'Union européenne. Alors attention, il est inexact de dire que la partie grecque de l'île seulement rejoint l'UE. Puisqu'en vérité, c'est toute l'île de Chypre qui entre dans l'Union européenne. Mais le droit européen ne s'applique pas en République turque de Chypre car elle n'est reconnue que par la communauté internationale, donc pas reconnue par l'UE. Alors, en vue de cette adhésion à l'UE, l'ONU propose un plan de réunification sous forme d'un État fédéral. Les Chypriotes turcs du Nord sont favorables à 75% à la réunification, notamment à cause de la crise économique en Turquie. Les Grecs, eux, votent contre à 76%. C'est donc un échec. D'autres cycles de négociations ont été menés, mais toujours sans succès. En 2024, ça fait donc 50 ans que l'île est divisée. Nous parlerons de cette situation et des issues probables avec mon invité dans quelques minutes. Mais tout de suite, Florent, tu nous apportes un autre éclairage plus léger.
En effet, je vous propose de faire un pas de côté, de regarder les faits sous un angle différent. Il y a des périodes sombres dans l'histoire de Chypre, on l'a vu, mais Chypre, c'est aussi des communautés autrefois habituées à vivre en bonne harmonie. Aujourd'hui, après 50 ans de partition, les relations entre les citoyens des deux parties se sont distendues. Les Chypriotes grecs et turcs se sont sans doute un peu plus isolés les uns des autres. Il faut dire que la grande majorité des Chypriotes aujourd'hui n'ont connu leur île que divisée. Pourtant, la volonté de rapprochement existe. Des initiatives de la société civile, autrement dit des citoyens chypriotes grecs et des chypriotes turcs, tentent de renouer des liens. Comme souvent, c'est la culture et l'art qui jouent ce rôle. Littérature, cinéma, spectacle, ateliers pour enfants des deux communautés, la culture parfois est plus forte que la politique ou les nationalismes. Et c'est tant mieux. L'un des exemples les plus vivants, les plus radiophoniques aussi, c'est la musique bien sûr. Bezayaz est un groupe qui réunit des musiciens des deux parties de l'île, ainsi qu'un clarinettiste britannique vivant à Nicosie. Hasard ou volonté, les trois grandes nations impliquées dans l'histoire de Chypre sont donc représentées au sein du groupe. Les instruments ont des sonorités grecques, la mélodie s'inspire des traditions chypriotes grecques et turques, et la langue dans laquelle chante le groupe est le dialecte chypriote grec enrichi de mots turcs. En clair, Bezayaz est à la fois un miroir de la société chypriote dans son ensemble et une contribution à la réécriture d'une identité commune. Allez, assez parlé, place à la musique. Auditrices et auditeurs de Radio Campus Paris, laissez-vous entraîner, c'est vraiment dansant.
Με στη φίλη Ζακέλ, μου μετρό. Τόσο χαρούμενο γλυκό μα με κρίση. Που τον εγγυώνα, ο γερό. Πάμε βουρτί για να δούμε τα μπέλια. Με στον ύπνο μου τα κλαδιά του φόρο. Που φύτεψαμε με καμούτσια με γέλια. Και κουρτίζουμε. Τι τσαμπάζει αγιά, με γουρώνει καρτάζ. Μα τα στέρκα τα κάλα, και καθροίζουν για μα. Mas
C'était Buzzy Ayazi du groupe Buzz Ayaz. Merci Florent pour ce pas de côté.
À l'oreille du monde, géopolitique, un samedi par mois à 17h30 sur Radio Campus Paris.
Merci d'écouter Radio Campus Paris. On continue de parler de Chypre avec le témoignage de Yorgos Vassiliadès depuis Nicosie, la capitale de Chypre. Yorgos Vassiliadès, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chypriote grec, vous parlez parfaitement le français car vous avez étudié à la Sorbonne à Paris où vous avez obtenu un doctorat d'études latines, c'est bien ça?
C'est bien ça, merci. Bon, j'essaie de parler bien, je ne sais pas si je parle parfaitement, mais merci en tout cas pour les compliments.
Ah mais si, c'est vrai. Alors aujourd'hui, vous vivez à Chypre où vous êtes professeur. Quelle matière enseignez-vous et pour quelle classe?
Je suis professeur de lettres, mais vous savez, à Chypre, quand on est professeur de lettres, on enseigne le grec moderne, littérature et langue, le grec ancien, le latin et l'histoire. Ce n'est pas comme en France où il y a les profs d'histoire géo et après les profs de lettres qui enseignent des matières différentes. J'enseigne au lycée et j'ai fait un cours aussi en tant qu'attaché d'enseignement à l'Université de Chypre aussi.
Justement, par rapport à l'histoire, j'ai rappelé tout à l'heure les faits marquants de l'histoire de l'île. Et en 1974, c'est le débarquement de l'armée turque dans la partie nord de Chypre et la date de la partition de l'île. Votre famille a-t-elle été impactée par ces événements?
Oui, on a le sentiment amer cette année d'honorer le 50e anniversaire de l'invasion turque sur l'île. Et ma famille, précisément, mais ne vient pas de la partie occupée de l'île, mais comme toute famille, a été impactée par les événements. Par exemple, mon père, pendant la guerre, il a servi comme brancardier. Donc, il a vu l'atrocité de la guerre, il a vu des gens mutilés, des gens blessés, gravement blessés. Et vous savez, après l'invasion turque, il y a eu... plusieurs, 200 000 en fait, réfugiés qui sont venus du nord de l'île et sont venus dans le sud de l'île. Donc ça a créé en tout cas une perturbation de la vie économique de l'île, de la vie sociale de l'île, et dont l'impact on le voit jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a aucun chypriote qui n'a pas été impacté par les événements de 1974.
Et puis donc, en 2004, Chypre intègre l'Union européenne. En 2004, c'est aussi l'échec du plan de paix de l'ONU qui proposait la réunification de l'île sous la forme d'une confédération de deux États. Et ce sont les chypriotes grecs qui ont massivement voté contre ce plan. Selon vous, pourquoi?
Voilà, je pense que la préoccupation principale des chypriotes grecs, c'était la question de sécurité. Parce qu'avec le plan de l'ONU, la Turquie... et garder son droit d'intervention à Chypre au cas où il le jugerait utile de le faire. Et donc, en fait, les chypriotes grecs craignent la répétition des années de 1974. Et je pense que ça, la raison principale pour laquelle ils ont voté contre le plan de l'ONU. Et après, il y avait aussi le problème de gouvernement de l'île, qui était très complexe et qui donnait en fait un équilibre très injuste pour les chypriotes grecs. En tout cas, ils ont un équilibre qu'ils ont jugé comme injuste.
Oui, on comprend. Et puis parlons de vous, entre 2004 et 2006, vous faisiez votre service militaire, c'est bien ça?
C'est bien ça, oui.
Et donc, comment avez-vous vécu les choses en tant que soldat?
Et moi, j'étais du côté de la ligne verte, de la région libre, comme on dit. Et je voyais l'occupation de l'autre côté. Donc, même si l'autre partie de l'île est aussi partie de notre île, on ne pourrait pas avoir accès à cette partie. Et j'ai vu deux armées l'un à côté de l'autre. J'ai vu des gens de mon âge qui restaient debout l'un côté, l'autre de l'autre. Et je me disais, pourquoi? Pourquoi? Ils sont des jeunes comme moi. Et on n'a rien à partager. Je pense que la paix mérite une occasion.
Ah oui, c'est une image forte, ces deux personnes des deux côtés de la ligne verte.
Et justement, depuis 2004, est-ce qu'il y a eu de vraies négociations de paix ? Y a-t-il eu une volonté au moins de relancer les discussions ?
Oui, il y a eu des discussions, des négociations. La dernière était en 2017, qui a malheureusement échoué. On l'a nagoté, jette la responsabilité sur l'autre. Mais je pense que, si vous voulez mon point de vue, la raison principale pour laquelle les négociations en 2017 ont échoué, c'est parce que la Turquie a persisté sur son droit d'intervention. Et je pense qu'aucun citoyen d'aucun pays européen n'aurait pas accepté un pays tiers d'avoir un droit d'intervention sur son territoire. Et donc, je pense que le président chypriote grec a préféré ne pas présenter encore une fois un plan devant le peuple et après être rejeté par le peuple.
Et aujourd'hui, de votre point de vue, comment décririez-vous la situation de l'île ? Est-ce que vous sentez des tensions au quotidien ?
Non, il n'y a pas vraiment de tensions au quotidien. Vous savez, depuis 2002, 2003, je pense que c'était 2002, les barricades, je préfère parler de barricades et pas de frontières, ont été ouvertes par les dirigeants chypriotes, c'était Raouf Dektash à l'époque, qui voulait apaiser la colère des chypriotes, qui voulait une solution au problème chypriote. Parce que vous savez, les chypriotes souffrent aussi de la situation, même plus que nous parfois. Et Raouf Dektash, qui était un nationaliste, croyait que du jour au lendemain, on va s'entraider. Bah, ça n'est pas arrivé il y a plus que 20 ans. Les barricades sont ouvertes. On va de l'autre. Certains vont de l'autre côté, certains viennent de notre côté, mais il n'y a pas de tension. Donc, je pense que le problème de Chypre n'est pas un problème bicommunautaire, ce n'est pas un problème entre la communauté chypriote grecque et la communauté chypriote turque. Il y avait des tensions dans les années 60, de deux côtés, mais je pense qu'on est au-delà de ça maintenant. Je pense que c'est une question d'invasion et d'occupation, comme la question de l'Ukraine, par exemple. Et en ce moment, on a un autre problème aussi avec les barricades qui ne sont pas contrôlées, qui ne sont pas ouvertes, que la Turquie fait passer dans le côté libre de Chypre, des immigrés qui viennent de la Syrie et des autres pays, justement parce qu'elle veut changer le caractère démographique de l'île. Donc, elle ne veut pas faire ça seulement du côté qu'elle occupe, mais aussi du côté libre.
Et vous, maintenant, en tant que professeur d'histoire notamment, comment jugez-vous la façon dont l'histoire est enseignée aux élèves ? Est-ce que l'histoire de l'île est enseignée différemment des deux côtés ?
Oui, c'est enseigné tout à fait différemment. Bah, pour dire de manuel, des histoires qu'on enseigne de l'autre côté, dans l'autre côté, je pense qu'une mise à jour est nécessaire parce qu'il s'agit de manuels qui ont été écrits en 1990. Vous savez, seulement 16 ans après l'invasion turque, ce sont les manuels avec lesquels j'ai été enseigné en tant qu'élève. En ce qui concerne les événements des années 60 et des 70, dans nos manuels, on dit la vérité, oui, on dit tout ce qui s'est passé, mais pas avec beaucoup de détails. Dans l'autre côté, d'après ce que je connais, je pense qu'on dit l'histoire juste l'histoire d'oppression des Chypriotes par les Chypriotes grecs. On présente les événements de 63 et de 64, de 67 après, comme une histoire d'oppression de Chypriotes par les Chypriotes grecs. Alors qu'en fait, c'était des tensions bicommunautaires pendant lesquelles les deux communautés s'entretuaient. Voilà, il y a eu des atrocités de deux côtés, malheureusement. Mais en 1974, c'est un État qui a commis des atrocités et qui continue à occuper l'île. Donc, voilà. Et est-ce que je peux ajouter quelque chose ?
Bien sûr, allez-y.
Oui, pour vous donner un exemple, comment la communication de la Turquie joue là-dessous, il y a une série télévisée grecque qui s'appelle Famagusta. Vous savez, Famagusta, c'est une.
Oui, qui a été interdite sur Netflix, c'est ça?
C'est ça, qui a été interdite de Netflix parce qu'elle montre justement les atrocités de l'armée turque. Mais pas que les atrocités de l'armée turque, hein. Elle parle aussi des nationalistes chypriotes grecs, mais la Turquie ne voulait pas que le public regarde que la Turquie n'a pas fait une opération de paix en 1974, mais une invasion. Donc, elle a été interdite sur Netflix. Voilà.
Pour finir, Yorgos Vassiliadès, j'aimerais vous demander quel avenir souhaiteriez-vous pour Chypre?
Moi, je souhaite un avenir de paix, surtout un avenir où tout Chypriote, que ce soit Chypriote grec ou Chypriote turc, pourra s'installer à n'importe quelle partie de l'île, vivre où il veut, travailler où il veut, enseigner où il veut, aimer où il veut. C'est ça ma vision de Chypre. Et un avenir où il n'y aura pas d'occupation. Un pays libre où on pourra vivre ensemble avec nos compatriotes, les Chypriotes turcs, malgré les différences de langue, de religion et tout. Je pense que ça, ce ne sont pas les facteurs qui ont provoqué les tensions. Donc, j'espère qu'en un avenir proche, on va surmonter cette difficulté et on pourra vivre ensemble en paix.
Waouh, c'est beau. J'espère que votre vœu se réalisera. En tout cas, merci beaucoup, Yorgos Vassiliadès, d'avoir répondu à mes questions.
Merci, merci, Michel Massiel.
Alors voilà, 50 ans après la partition de l'île, vous l'aurez compris, les tensions ont fortement baissé, mais la situation reste figée et le statu quo semble parti pour durer. C'est la fin de ce premier numéro d'À l'oreille du monde. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à l'écouter que moi, à le préparer et à le présenter. Je vous donne rendez-vous le 26 octobre prochain pour une nouvelle destination. À très vite sur Radio Campus Paris.